Voilà. Donc je reprends Clément. Clément fait donc des allusions à des malheurs arrivés à l'église de Rome. Et ces malheurs désignent peut-être les persécutions, mais ce n'est pas sûr. Et donc l'Apocalypse est très intéressante parce qu'elle montre comment et pourquoi on persécutait les chrétiens. Et les chrétiens d'Asie sous Domitien, aussi pour montrer le changement d'attitude de Rome par rapport aux chrétiens. Rome n'a pas toujours été contre les chrétiens. Et donc, si on peut considérer Néron comme le persécuteur, Jean va encore plus loin en disant « Cet empire romain, c'est le symbole de la bête. Rome, c'est Babylone, c'est le paganisme persécuteur. » Donc, il ne va pas de main morte. Mais il est difficile, quand on voit tous ces témoignages-là, de croire que les chrétiens aient été très inquiétés sous le règne de Clément de Rome et de... comment il s'appelle ? Oui. Parce que c'était pas toujours les raisons religieuses qui faisaient arrêter les gens, mais très souvent les raisons politiques. Si ces gens sont libres et disent ce qu'ils pensent, ils ne vont jamais nous obéir. Donc ils sont embêtants parce qu'ils sont libres. Et ils peuvent croire tout ce qu'ils veulent chez eux, mais qu'ils ne commencent pas à faire des choses publiques, qu'ils n'essayent pas d'influencer les autres. Alors, le règne de Trajan, un petit peu plus tard, offre un des documents les plus remarquables qui attestent l'existence de poursuites entre les chrétiens et qui confirment comment ils ont vécu ça. C'est une très longue lettre, je ne vais pas vous la lire, de Pline le Jeune. Et dans ce texte, il a probablement constitué la jurisprudence qui va durer pendant tout le deuxième siècle et qui va aider à se situer autrement. Donc, je vais simplement prendre un petit morceau. En fait, non, ça va prendre du temps. En fait, un de ses collaborateurs ne sait pas très bien ce qu'il doit faire avec les chrétiens. On lui dit qu'il doit les tuer, on lui dit que c'est pas bien, et alors il écrit une très longue lettre, dit qu'est-ce que je dois faire. Alors, Pline le Jeune dit, s'ils ne veulent pas obéir, tu les mets en prison. Il ne faut pas les tuer, tu les rejettes et tu veilles à ce qu'ils soient soumis à Rome. Tu ne fais rien d'autre. Et donc, Trajan avait envoyé Pline pour pouvoir expliquer cela. Et le témoignage de Pline est très intéressant parce qu'il concerne des persécutions en Bithynie. Et la tradition connaît là deux martyrs qui étaient très connus et suppliciés sous le règne de Trajan et dont on ne peut pas nier l'authenticité. C'est Ignace d'Antioche et Simon, l'évêque de Jérusalem. Alors, on constate que les plus notables de ces martyrs ont été liés à des fêtes païennes. Donc les chrétiens profitaient de la fête païenne pour en faire une fête chrétienne. Mais en même temps, les condamnations aussi étaient organisées à l'époque des fêtes païennes, et donc on brûlait les gens pour faire un beau feu. Et les martyrs de Lyon, livrés aux bêtes à l'occasion de la fête, qui réunissaient à Lyon les délégués des Trois Gaules. Donc on profitait des chrétiens pour amuser les gens, mais pas seulement des chrétiens. Tout qui résistait à l'Empire était considéré de la même manière. Je conclue cette première partie. Il ne semble pas que ces premiers empereurs, donc Néron et Trajan, étaient directement impliqués dans les exécutions. C'est plutôt les autorités locales qui le faisaient et qui se contentaient de faire des exemples avec l'espoir de décourager de nouvelles conversions. Ils sont là, d'accord, mais il n'en faut pas plus. Et sous le règne d'empereurs qui étaient plus libéraux, les Antonins par exemple, on peut s'étonner qu'il y avait des martyrs parce que les chrétiens ne faisaient rien de mal. Alors, certains auteurs disent qu'il ne faut pas oublier que la civilisation garde sous son vernis humaniste un fond de cruauté. Dans ce cas, on comprend mieux la réaction des apologistes, donc ceux qui veulent défendre la foi, et qui veulent montrer la contradiction de personnes qui tuaient les chrétiens, mais sans croire à leur culpabilité. Donc on les tue parce qu'il nous faut du plaisir, parce que c'est amusant, ils ne nous embêtent pas, mais on les tue. troisième point, Septime Sévère. Septime Sévère, l'empereur 146 jusqu'à 211, il était son prédécesseur Commode, le dernier des Antonins. Les Antonins, c'est un groupe de deux familles qui a été empereur pendant de 93 à 193, avait laissé l'Empire dans un état d'anarchie absolument incroyable. Alors Septime Sévère, lui, prend le pouvoir, rétablit l'ordre, et il décide qu'il faut faire un nouveau style de relation entre l'Empire et l'Église. Et il n'a pas pour les chrétiens, au point de départ, l'antipathie intellectuelle que Marc Aurèle avait, par exemple. Il est très ouvert aux influences de l'Orient. Mais on ne sait pas trop pourquoi, ses bonnes dispositions par rapport au christianisme ont cédé, parce que l'Église était en train d'avoir une étonnante recrudescence. De plus en plus de chrétiens existaient. Donc ils commencent à prendre de la place. Et donc, pourquoi tant de chrétiens? Parce que la théologie qui les soutenait, c'était l'idée du retour immanent du Christ. Avec, à côté de cela, si le Christ vient bientôt, alors il faut vivre un ascétisme radical et exalté. Et Tertullien est un exemple de ce christianisme, on ne veut pas de compromission. C'est le Christ qui compte et c'est lui qu'on veut suivre. Il y a toute une littérature qui est toujours celle dont on parle et qu'on nous donne dans les films, par exemple, les actes de Félicité et Perpétue, donc les deux jeunes femmes tuées dans le cirque. Ou alors les martyrs de Lyon. Alors tout cela se rattache au même contexte. Le christianisme est maintenant une force avec laquelle il faudra tenir compte. Deuxième point, Septime Sévère ne veut pas se priver d'hommes valables parce qu'ils sont chrétiens, mais il s'inquiète du danger que la propagande chrétienne risque de faire courir à l'Empire. S'ils ont beaucoup de succès, à quoi servons-nous? Et donc, il interdit en 2202, un édit, pas de prosélytisme aux chrétiens. C'est un acte qui empêche la diffusion du christianisme. Et c'est le premier acte qui est directement porté contre eux. En fait, contre leur existence, contre le fait qu'ils soient là. Et l'intention est claire, maintenir la supériorité numérique du paganisme et empêcher toute nouvelle conquête d'une nouvelle religion. Alors, c'est une première mesure générale, et il n'est pas difficile de la mettre en rapport avec le caractère apocalyptique d'une partie du christianisme, mais ce christianisme qui espérait partir très vite n'était pas celui des évêques, des pasteurs souciés du peuple, désirés d'un accord avec les pauvres. Et on se retrouve devant un conflit classique entre les intellectuels d'un côté, comme Tertullien, Origène, qui veulent une église idéale, et des pasteurs conscients des conditions d'une église réelle. Ça existe encore toujours. Et c'est parade de temps en temps quand je rencontre des anciens étudiants qui sont prêtres, ils disent non, mais toute cette théorie vient un peu dans le concret. Si les évêques s'inquiètent, Sévère, lui, supporte mal qu'au moment où il réforme des lois sur le mariage, les chrétiens condamnent le mariage. Certains, ils veulent la continence, ils refusent la vie solitaire au moment où les frontières de l'Empire sont menacées par les Parthes. Donc ça les embête. Ces gens sont très très pieux et très très vertueux, mais nous on a besoin de soldats qui savent tuer les autres. Alors l'édit de Sévère va déterminer une persécution. Elle ne sera pas très violente, car le décret sera appliqué avec une certaine mollesse. C'est l'époque des martyrs dans les années 211-213 de Perpétue et Félicité. Et c'est surtout à Carthage qu'un certain proconsul qui s'appelait Scapula s'est fait une réputation de cruauté absolument impitoyable. Et donc, attestés en Égypte et en Afrique, les persécutions alors se sont prolongées pendant une dizaine d'années. Mais elles ne sont pas nécessairement la conséquence de l'édit, sauf les mesures qui ont été prises contre l'école catéchétique d'Alexandrie qui était dirigée par Clément d'Alexandrie. Il y avait une école de catéchèse. Non, ça embête les Romains. Ça, il faut les supprimer. Parce qu'ils vont encore faire des chrétiens et des chrétiens intelligents. Donc ça, c'est pas possible. Et donc, Clément va s'exiler, Origène aussi. Et dans la logique de l'édit, les martyrs qu'il fallait, donc ceux qu'on devait absolument tuer, c'était les catéchumènes et les néophytes. Les vieux chrétiens pouvaient vivre. Mais il faut tuer les jeunes. Et donc, le délit, alors quel était le délit pour pouvoir les tuer? Eh bien, c'était tous ceux qui se préparaient au baptême, ou qui venaient de recevoir le baptême. Et cette mesure était habile, car elle ne frappait pas les anciens chrétiens. Donc on ne pouvait pas attaquer l'empereur. Non, mais simplement, il ne voulait pas qu'on les forme. Et si on ne les formait pas, il n'y en aura plus. Et donc, elle rendait circonspect l'admiration au diaconat, et en même temps, elle souligne le caractère dangereux de la tâche de catéchiste, parce qu'être catéchiste à cette époque-là, c'est violer la loi romaine. Et donc on va en prison et on vous tue. Et c'est à cette époque qu'Irénée de Lyon a été assassiné aussi. On avance, on est en 2005, un autre empereur, Sévère Alexandre, était arrivé à créer une situation paisible pour les chrétiens, avec l'une ou l'autre petite persécution. Mais son successeur Maximin, c'est un berger, poursuit les chefs de l'Église. Parce qu'il dit que c'est les chefs de l'Église qui sont responsables d'une religion, et cette religion affaiblit la défense de l'Empire parce qu'elle détourne ses adeptes du service militaire. Donc pas question. Mais pas trop de provinces en ont souffert, sauf une seule, la Cappadoce. Les autres, on n'a pas trop pris compte de cela. Je conclue cette partie. Pendant la première moitié du IIIe siècle, aucun obstacle sérieux n'a fait entrave au christianisme, qui était plus ou moins autorisé selon les empereurs et selon les chefs en place. Mais, quand on parle des persécutions dans l'Église, c'est toujours celle-ci qui est visée, même si on ne la nomme pas comme telle. Les choses ont changé avec l'avènement de Dèce. Dèce est un empereur de 2001 à 2051. Cet empereur arrive au pouvoir et il veut renforcer et refaire l'unité morale de l'Empire. Et il faut restaurer les mœurs anciennes et rendre vigueur à la religion qui a fait son passé, la religion des Romains, avec leur faux dieu. Et donc, pour cela, il faut absolument frapper le christianisme, car il a beaucoup trop d'adeptes. Et en 250, alors Dèce ordonne à tous les citoyens de faire acte d'adhésion au culte païen. Quand vous nous demandez, vous allez faire adhésion maintenant au culte de cette petite population là-bas qui n'a pas de Dieu. Alors, comment faire acte d'adhésion? Comment va-t-on le savoir? D'abord, il faut participer à un repas sacré, même réduit à la plus simple expression. Par exemple, on peut aussi offrir quelques grains d'encens à la statue de l'empereur. Et par là, le suspect, c'est-à-dire le chrétien, mais pas seulement, mais dans tous ces suspects, c'était le chrétien qui était visé, ont démontré que ce soupçon ne servait pas à grand-chose. Parce que finalement, ce qu'on voulait faire, c'était pas punir le crime, mais faire cesser le crime. Alors, pour obtenir le résultat, le crime d'être chrétien, pour obtenir le résultat, alors on a c'est une dizaine d'années certainement, où on torture, on emprisonne, tentative de séduction, et on demande au juge, vous devez réussir, faites tout ce que vous voulez, mais il faut réussir. Et donc Origène dit ceci, les juges s'affligent si les tourments sont supportés avec courage, mais leur joie est sans borne lorsqu'ils peuvent triompher d'un chrétien. Le mot d'ordre était donc, il ne faut surtout pas faire des martyrs, mais il faut faire des apostats. Parce que ça, c'est mal vu partout. les apostats sont mal vus par les chrétiens eux-mêmes. Donc faites en sorte qu'ils aient tellement mal qu'ils vont renoncer à leur foi. Et tous les moyens sont bons. Il y en a eu beaucoup. Et alors il y avait dans chaque localité romaine une commission qui était chargée de surveiller l'accomplissement des rites. Il y avait des surveillants qui veillaient si on ne trichait pas. Et alors on recevait un certificat qu'on appelait le libellus, signé par un représentant du forum. Donc les martyrs furent nombreux, mais ceux qui exécutèrent l'ordre impérial furent très nombreux. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On vit, on ne vit pas. Et alors on les classe par genre. Ceux qui sont allés jusqu'au bout et avaient participé à un sacrifice, on les appelait les sacrificatifs, qui ont fait le sacrifice. Ceux qui avaient brûlé l'encens, on les appelait les purificatifs. Ceux qui s'étaient débrouillés pour acheter un fonctionnaire et recevoir ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir passer, on les appelait les lapsis. Et ce sont ceux-là qui seront très mal vus par la suite par les chrétiens. Vous avez payé pour être sauvés et trahir votre foi. Le plus souvent, ils avaient peur. Et donc, on trouve ça partout dans l'Empire. Mais alors, à propos de ces lapsis, il y aura beaucoup de disputes dans l'Église. Notamment Cyprien, l'évêque de Carthage, lui-même, qui s'était enfui pour échapper à la persécution, dénonce avec indignation les lapsis. Alors, compte tenu du nombre de ces personnes, on a pu croire, sur le moment, un succès de la politique impériale. Mais en fait, il semble qu'aucune communauté n'a été démantelée. Les communautés étaient réduites, mais elles existaient toujours, comme si on n'arrivait pas à supprimer ces chrétiens de la vie publique. Et d'autre part, il y avait suffisamment de martyrs pour encourager l'empereur et pour qu'il espère qu'il arriverait quand même à déraciner le christianisme. Les deux extrêmes. Puisque ça marche, on va continuer. Si ça marche pas bien, on continuera et les autres continuaient à respecter leur foi. On arrive alors à un nouvel empereur, la dernière persécution de Dèce. Et la persécution générale, elle avait commencé vers le milieu des années 250 et elle se ralentit dès la fin de l'année. Ce ne sont pas 50 ans suivants. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails des chiffres, mais c'est des moments très importants où on assassine et puis on reste tranquille 10 ans, puis on recommence 3 ans suivants. Ça revient en fonction de l'empereur. Alors, Dèce était mort et Valérien, son successeur, semblait être conciliant, mais il rallume la persécution. Pas pour la raison d'État, mais parce qu'il cède à un courant d'hostilité populaire qui s'était formé à l'occasion d'une terrible peste qui avait ravagé l'Empire en 251. Alors, ou bien le courage des chrétiens s'est affermi, ou bien les esprits ont changé, et Valérien commence peut-être par se montrer favorable aux chrétiens. Alors, un revirement se produit 3 ans plus tard. L'empereur, alarmé par les difficultés externes de l'Empire, donc les frontières, les ennemis entrent et sont plus aussi forts qu'ils pensaient, interne, il n'y a plus de finances. Il s'en prend aux chrétiens parce qu'ils sont responsables des malheurs. Alors, il renouvelle en août 257, c'est une date à retenir, l'ordre de sacrifice. Mais cette fois-ci, il ne va pas s'en prendre aux débutants. Au début, on s'en prenait aux chrétiens, puis après, aux débutants qui voulaient être aux catéchisés. Maintenant, on va trouver un moyen de limiter le nombre d'évêques, de prêtres et de diacres. On va attaquer les chefs. Parce que s'il y a des chefs, ça va tenir. S'ils sont partis, peut-être que ça marchera. Et alors, on interdit sous peine de mort la célébration du culte. Et les visites au cimetière. La loi de l'empereur. Un premier édit. Un deuxième édit vient renforcer le premier. Alors là, on veut montrer qu'on est ouvert, et alors les chrétiens peuvent adorer leur Dieu, mais en privé, dans leur chambre, quand ça ne gêne personne. Et ce culte, en plus, doit se concilier avec la pratique du culte officiel. Vous voyez, c'est compliqué. Alors, évidemment, il faut de l'argent. Pour renflouer la caisse de l'État, Valérien confisque les biens des chrétiens fortunés. On leur prend tout. Alors, l'application de ces deux décrets a été immédiate et rigoureuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les clercs, donc les diacres, les prêtres, les évêques, qui refusaient de sacrifier, sont exécutés sur le champ. Soit exilés, soit tués, les biens des uns et des autres est confisqués. La persécution a été sanglante à Rome en Afrique, en Gaule et en Orient. Et alors, Cyprien de Carthage, Denis de Carthage et le pape Sixte II de Rome ont été les victimes de ce Carthage. Alors, Valérien meurt en captivité et son fils Galien promulgue un édit de tolérance. Galien, qui sera empereur en 253 jusqu'en 268, et promulgue un édit de tolérance en 259. Il faut cesser de poursuivre les chrétiens et plus tard de rendre les biens du culte et les cimetières confisqués. L'empereur qui prend parti et qui va rendre ce qui a été pris. J'ai entendu ça. Alors, sans donner à l'Église un statut officiel, l'édit de Galien avait quand même créé un climat paisible et une période calme jusqu'à la grande et terrible persécution de Dioclétien dont je vais vous parler maintenant. C'est la plus grande de toutes, c'est l'horreur. Donc, Dioclétien, version numéro 8, proclamé empereur en 284, Dioclétien remanie de fond en comble la structure de l'État et du pouvoir. Alors, à l'empire monarchique, il substitue une trétarchie, c'est-à-dire un gouvernement à quatre, pour toutes ces provinces que Rome possédait, avec deux empereurs, les deux Augustes, ceux qui de l'époque étaient Dioclétien et Maximien, et deux Césars, qui étaient un peu, pas le premier ministre, mais un peu moins que les deux empereurs. Et souvent, les anciens Césars devenaient des empereurs. Et ce petit groupe de quatre avait comme chef l'empereur de Rome. Alors, cette organisation instaure un absolutisme de caractère théocratique. L'empereur ne va pas tarder à se prendre pour Dieu quand on a un tel pouvoir. Et en même temps, elle est destinée à assurer la permanence et la stabilité du pouvoir impérial par une transmission sans heurts, parce que c'était souvent les fils et les filles qui faisaient partie de la trétarchie, ou la famille, ou le beau-frère. C'était vraiment une affaire familiale. Mais elle doit maintenir l'unité de l'Empire, et alors elle assure à Dioclétien, qui est le roi actuel, né en 245, mort en 313, qui est le père du système, il a une primauté au sein du collège impérial. Il est vraiment le dieu. Et donc, très curieusement, dans ce troisième siècle, la religion constitue le fondement de la politique romaine. Le pouvoir impérial, dit l'empereur, est d'origine divine. Et la personne du prince est d'essence divine. On a toujours besoin quand même de chercher un dieu. On est quand même mieux quand on est dieu. Et c'est une curieuse théologie qui est sous-jacente à cette réforme, et le christianisme en supportera les conséquences. Donc, pendant 20 ans, tout se passe bien, et puis se déclenche brutalement la persécution sous l'instigation de Galère, qui était un César et qui était le beau-fils de Dioclétien. Galère, qui exerce une très très forte influence sur son beau-père, qui est très vieillissant, et qui est bien vu dans l'Empire parce qu'il a une magnifique victoire sur les Huns. Alors déjà en 297, un édit contre le christianisme visait son caractère de religion nouvelle, et des mesures avaient été prises par Galère contre les soldats de son armée, parce que les soldats ne voulaient plus aller tuer les autres. Donc ces soldats, évidemment, sont tous assassinés. C'était une épuration de l'armée non sanglante et sanglante. Et tous ceux qui pensaient autrement, on les assassinait tranquillement. Et le puissant parti païen, donc, secondait Galère dans ses manœuvres antichrétiennes. Et Dioclétien, lui, mais c'était oppression, pas parce qu'il était faible et âgé, mais parce que, dit-il, il était attaché aux traditions religieuses, romaines bien entendu. Il redoutait la force grandissante du christianisme. Alors quatre édits sont promulgués contre les chrétiens. Et ces édits seront promulgués de février 303 à janvier-février 304. Le premier édit romain comportait l'interdiction du culte. Et donc, pour que le culte ne soit plus fait, il n'y a pas 36 manières, confisquer, détruire les livres, les objets et les églises. S'il n'y a plus rien de tout ça, il n'y a plus de culte possible. En plus, les chrétiens étaient exclus des fonctions publiques. S'ils sont avocats, ou s'ils sont médecins, ou s'ils sont professeurs, pas question. Il faut commencer à entretenir les gens de leur religion, et on les soumettait à des déchéances juridiques. Ils étaient maîtres ou avocats, c'était terminé s'ils étaient chrétiens. S'ils étaient général dans l'armée, plus question. Mais pas de peine de mort. On ne les tuait pas. Le deuxième édit, quelques semaines plus tard, ordonne l'arrestation du clergé. Pas de peine de mort non plus. Troisième, tout ça entre 3003, donc entre en un an, 3003 à 3004, le troisième accordait la liberté des prisonniers s'ils abjuraient. Les autres étaient torturés. Et enfin, le quatrième édit, qui est probablement l'œuvre de Galère en l'absence de Dioclétien vraiment très âgé, ordre de sacrifier aux dieux sous peine de mort ou de travaux forcés dans les mines. Et donc, cette persécution fut très violente. C'est peut-être la plus violente de toutes. Lactance, un écrivain latin, professeur de rhétorique qui s'était converti au christianisme, qui était né en 250, mais on n'a pas la date de sa mort, écrit un livre qui s'appelle « De la mort des persécuteurs », qu'il achève en 5 ans, entre 316 et 321, et il apporte une documentation de première main sur les persécutions de Dioclétien et ses successeurs. Alors, en Gaule et en Bretagne, placés sous l'autorité de Constance Chlore, qui était le César d'Occident, le César ça veut dire l'empereur, qui était le père de Constantin, on s'est limité à appliquer le premier décret. Donc la famille de Constantin était un peu différente. Donc il était l'empereur, il dit on prendra le premier, le reste c'est pas pour nous. Comme on dit en flamand, dans des nuits Florence. En Italie, sous Maximien, la persécution était forte mais brève. Par contre, en Orient, dont Dioclétien était l'empereur, elle fut très 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 dure. Et elle se prolongea pratiquement jusqu'en 313. Des exécutions en masse. Alors, ça veut dire qu'on ne faisait pas attention, on mettait tout le monde autour de cordes et de tissus, on mettait le feu à tout un bloc. Atroce. Et alors, la persécution alors a pris un caractère systématique. Galère a succédé donc à Dioclétien. Il abdique en 205, et son César à lui, donc son second à lui, Maximin d'Aïa, est encore pire. Avec lui, la persécution prend un caractère systématique. Nouvel édit en 306, avec ordre de sacrifier tous ceux qui doivent être sacrifiés, c'est-à-dire les chrétiens. Et cette rigueur sera encore accrue en 309. Alors, on a beaucoup de nombreux martyrs en Asie mineure, en Égypte, en Syrie. Et dans son livre Z de Césarée, qui s'appelle Martyr de Palestine, Il donne en détail les sauvageries des bourreaux, les apostats, le courage des victimes. Et on ne sait pas quoi faire. Mais les mesures étaient vaines parce qu'il se passe quelque chose de nouveau dans le monde romain. La population commence à en avoir marre de voir toutes ces persécutions. Et la population païenne va aider, cacher, sauver les chrétiens. Et la persécution qui venait de la haine de la foule, elle venait maintenant uniquement des chefs. Les gens ne veulent plus ces persécutions. Et la situation a donc été mûre pour un changement aussi en politique, grâce auquel la répression finira par s'essouffler. Alors Galère est bien obligé de reconnaître l'échec de cette politique. Il meurt 6 jours avant sa mort, il meurt début mai. Le 30 avril 311, il écrit un édit de tolérance. On doit accepter que les gens pensent autrement. Et dans ce courant-là, la victoire de Constantin contre l'empereur Maxence, qui était un empereur avec qui il était en guerre, qui n'était pas chrétien, Constantin, vainqueur pour tout le pays des gens qu'il a vaincus, décide de la renaissance du christianisme. Le 13 juin 313, l'édit de Milan établit la liberté religieuse. Le 13 juin 313. Désormais, le christianisme devient religion acceptée. Retenez bien cette date, 13 juin. Sans ces dates-là, nous ne serions pas là. Quelques remarques conclusives avant que je vous lise un texte. Pour terminer, il faudra que je le retrouve. Vous êtes d'accord avec qui ? Vous êtes d'accord que je retrouve mon texte ? C'est pas possible que je ne permette pas. On enregistre ça ? Bon, j'ai besoin de trouver, hein, ça va. Des remarques pour conclure. Deux remarques. Les persécutions d'un temps, vous les avez sur vos feuilles, deviennent, les persécutés d'un temps deviennent aisément les persécuteurs d'une autre époque. Hélas. Ça s'est manifesté dans les premiers temps de l'Église. Jusqu'en 313, les païens ont eu pouvoir sur les chrétiens. Et puis, inquiets devant leur nombre et leur dynamisme, ils se sont pris en état de légitime défense. Et peu après 313, le christianisme soutenu par l'empereur Constantin est devenu religion officielle. Et elle se sentira à son tour menacée par le premier problème interne qui va surgir avec les donatistes. Alors les donatistes, c'était des chrétiens qui avaient accordé une très grande gravité à la trahison, c'est-à-dire ceux qui avaient collaboré avec les païens pour ne pas être tués ou bien brûlés, ou peu importe. Donc c'était ceux qui en fait avaient triché. Et donc c'est comme le pécheur, moi la pécheur ne lui pardonne pas. Et ils estimaient que le sacrement donné par les apostats, il y avait des prêtres dans la bande évidemment, était nul. Si un prêtre apostat baptise, ce baptême ne compte pas. Donc, et si cette personne vient chez nous, on la rebaptise. Et alors, de gré ou de force. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'Église va poursuivre et persécuter les donatistes. Eux qui étaient les persécutés 300 ans avant et 50 ans avant vont devenir les persécuteurs. Avec beaucoup de brutalité, d'intolérance, ils vont tuer autant que possible tous ceux qui souhaitaient défendre ces apostats. Donc le pardon n'existait pas. Et leur église était l'église des martyrs. Et donc, ce sera jusqu'en 1411 que les donatistes vont être poursuivis. Constantin va les punir très sévèrement, il va confisquer leur basilique, il va exiler les meneurs. Et finalement, devant les désordres qui en résultent, finalement, Constantin se dit, mais non. Le 5 mai 321, il dit, la liberté religieuse doit exister. Et donc, on ne les a plus condamnés. Et c'est une nouvelle ère qui commence, mais ça, ce sera pour un autre exposé. Je vais vous lire maintenant un petit texte pour terminer. C'est celui de... C'est le texte complet de Néron. Aucun moyen, ni la largesse du prince, ni les satisfactions offertes aux dieux, ne dissipaient les soupçons et l'empêchaient de croire à l'incendie allumé par l'ordre des chrétiens. Mais j'ai jamais vu, je crois. Non ? Donc, pour faire taire ces rumeurs, Néron présenta des accusés et fit subir les tortures les plus raffinées à des individus détestés pour leur abomination que le vulgaire appelait chrétien. Ce nom leur vient de Christ, qui sous Tibère avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Alors, un petit mot sur Ponce Pilate. On n'en dit jamais grand-chose. Non, Ponce Pilate n'était pas un très grand gradé dans l'Église romaine. Il était de partie, bon, des... Il était gouverneur, mais le gouvernement, il gouvernait une partie d'une province. Donc la province était toute une partie de l'Europe de l'époque et lui n'avait que la Judée. Et donc, Ponce Pilate était procurateur de la Judée. Il n'était pas gouverneur. Et c'est à la tête d'une province se trouve le gouverneur. Et les provinces qui n'avaient pas d'armée étaient gouvernées par le Sénat. Alors, les historiens juifs, Philon, Flavius Josèphe, décrivent Ponce Pilate comme un homme rapace, injuste et cruel. Il faut sans doute nuancer cette position que le nationalisme juif de ses auteurs rendait tendancieuse. Parce que, sans être tout à fait incapable de diplomatie, Pilate heurtait le sentiment religieux juif en faisant défiler exprès les troupes romaines dans toutes les rues et avec leurs grandes enseignes et leurs dieux. Ça, les juifs ne le supportaient pas. Et donc, il a prescrit aussi de puiser dans le trésor du temple pour faire construire sur un terrain appartenant au temple un aqueduc destiné au passage des Romains. Pilate possédait seul, donc dans toute cette affaire romaine, il possédait seul, comme gouverneur, le droit de vie et de mort. Et c'est pourquoi il a abandonné Jésus aux juifs, pour ne pas créer un nouvel incident avec les juifs surexcités par ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas par pitié pour Jésus, ou peut-être bien. Alors, il a fait sacrifier des Samaritains. Il est venu s'expliquer à Rome sous une plainte d'un notable de Samarie. Et alors, selon Eusèbe de Césarée, je termine par là, il se serait suicidé. Mais selon d'autres traditions, il était exilé à Vienne, en Gaule. D'autres traditions encore disent qu'il s'est converti au christianisme et qu'il aurait péri dans la persécution de Néron. L'Église copte, en tout cas, le révèle comme un martyr. Donc vous pouvez prier Saint Ponce Pilate. Et les actes de Pilate ou l'évangile de Nicodème sont un apocryphe du IVe siècle qui raconte le jugement, la mort et la résurrection de Jésus. Et Pilate, qui a été celui qui l'a laissé aller, va peut-être être canonisé, puisque l'Église copte le révère comme un martyr. Voilà, il en est venu. Merci pour votre attention et mes distractions.